France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis Paderewski, vous comprenez aussitôt au piano et vous entendez déjà Chopin, son compatriote. Ignace Paderewski fut certes un immense virtuose, admiré tant en Europe qu'aux États-Unis, mais il fut aussi compositeur et, ce qui est plus singulier, président du Conseil des ministres de la Deuxième République de Pologne en 1919. En souvenir de cet événement et pour mieux connaître la vie de ce personnage étonnant, le musée de Morges, en Suisse, organise une exposition qui se tient jusqu'à la fin de l'année. Antonin Scherer, conservateur du musée Paderewski de Morges, vient nous présenter le catalogue de cette passionnante exposition. Paderewski, président, une vie d'engagement patriotique en faveur de la Pologne, par Antonin Scherer, édité par Favre. Enregistré en 1924, c'était l'étude opus 25 numéro 9 de Frédéric Chopin par Ignace Paderewski. Bonjour Antonin Scherer.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes donc conservateur au musée Paderewski de Morges en Suisse. Et pourquoi y a-t-il un musée Paderewski à Morges ?
Et tout simplement parce que Paderewski a passé la moitié de sa vie, on l'ignore souvent, sur les rives du Léman.
Oui, Morges, entre... c'est pas loin de Lausanne, c'est ça?
C'est juste à côté de Lausanne, c'est la ville d'à côté. Et pour être précis, il a même habité sur la commune de Tolochna, qui est un nom qui fait effectivement très très suisse, mais qui surtout était le lieu de vie et de mort, en l'occurrence, d'Audrey Hepburn, notamment une grande actrice de cinéma. Paderewski, à la fin du 19e siècle, lorsque dans la foulée de ses tournées absolument pharaoniques du côté des États-Unis, il avait des trains spéciaux, des pianos Steinway pour les nommer effectivement qui descendaient de gare en gare, avait attrapé effectivement ce virus qu'on pense beaucoup plus moderne mais qui en fait existait déjà à l'époque, qui s'appelle le burn-out. Il avait une amie, la princesse Rachel de Brancovan, qu'il avait accueillie notamment dans ses jeunes années de jeune pianiste virtuose à Paris, un petit peu comme Chopin était accueilli dans les salles un demi-siècle plus tôt, qui lui a dit, elle, qui était résidente en été d'Anfion, à côté d'Évian, elle a dit, ben tiens, à 16 km à vol d'oiseau en face de chez moi, une maison un peu particulière vient de se libérer, tu devrais peut-être l'acheter pour aller y terminer ton opéra Manroux, l'opéra national que Paderewski avait depuis longtemps sur le métier, pour aller te reposer, pour aller également t'occuper de ton fils. Il avait un fils poliomélitique, malheureusement, qui allait décéder peu de temps après. Donc bref, cette maison de Rion-Bosson, c'est donc le nom de cette maison que les spécialistes d'architecture n'ont pas su décrire autrement qu'en disant qu'il s'agissait d'un mélange entre un chalet suisse et un palais vénitien.
C'est vrai, quand on voit les photos, c'est difficile à définir.
Indéfinissable, effectivement, une bâtisse magnifique qui malheureusement n'existe plus. En 1965, pas en raison de l'exposition nationale et de la construction de la première autoroute, mais tout simplement parce que la personne qui avait racheté la maison après la succession de Paderewski s'était vite rendu compte que c'était ingérable au niveau de l'entretien. Et les terrains valant si cher sur les rives du Léman déjà à l'époque, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile à vendre comme ça. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est des multinationales multinationales qui ont leur siège. Mmh. Exactement. On voit encore quelques grands cèdres séculaires s'élever entre ces maisons de vitres et de métal. Mais bref, effectivement, on n'imagine plus que cette maison était là avec des hectares et des hectares de terre.
Donc le musée Paderewski à Morges n'est pas dans la maison qu'a habité Paderewski.
Malheureusement pas. Bon, évidemment, on rêverait d'être là-dedans. On a un tout petit musée qui est englobé dans le musée qui s'appelle le musée du château de Morges, qui est un musée militaire à la base. Alors, au début, je vous dirais effectivement qu'on nous a un petit peu accueillis avec des grands yeux. C'était juste une question de locaux. On avait un musée qui était simplement situé à quelques centaines de mètres de là. On a dû déménager. Et ils se sont dit, il y a une salle de libre dans le château de Morges, allez-y. Mmh. Les gens, évidemment, du musée militaire nous ont regardé un petit peu avec des gros yeux. Tiens, un artiste au milieu du musée d'artillerie et de la gendarmerie, c'était un petit peu particulier. Mais ils se sont rendus compte, notamment comme on le montre cette année avec cette exposition consacrée à l'année présidentielle de Paderewski, qu'il était non seulement un artiste, mais également un grand homme d'État. Donc finalement, c'était pas si incongru que ça de l'avoir là-dedans.
Et puis Morges, pour les mélomanes, ça dit quelque chose quand même. Quand on pense à Stravinsky, c'est là où il a passé une bonne partie de la Première Guerre mondiale.
Absolument. Du temps où, effectivement, il côtoyait Ramu, Ansermet et tout. Exactement. Ça. Absolument, c'était pas loin. Ils se sont malheureusement pas croisés parce que Paderewski... on est quasiment sûr. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé dans notre fond d'archives de lettres échangées avec Stravinsky. À mon avis, tout simplement parce que il était aux États-Unis pendant toute cette période-là pour aller chercher des fonds et mobiliser les Polonais d'Amérique, dont en faveur de l'effort de guerre et surtout de l'effort humanitaire en faveur de la Pologne détruite, mais qu'on imaginait à nouveau indépendante.
Earl Wilde au piano, l'orchestre symphonique de Londres dirigé par Arthur Fiedler. C'était le début de la fantaisie polonaise pour piano et orchestre d'Ignace Paderewski. Antonin Scherer, donc cette exposition Paderewski, on l'a compris, donc se tient dans le musée de Morges, musée du château de Morges en Suisse, sur les bords du lac Léman. Alors, on ne va pas raconter toute la vie de Paderewski, ce n'est pas l'objet de cette exposition, même si évidemment il y a toute une chronologie pour resituer le personnage. Donc né en 1860.
Eh bien, figurez-vous, 1859,
ça y est, c'est nouveau.
L'un des spécialistes, Didier Van Moor, effectivement, qu'on connaît bien, j'imagine, effectivement, ici en France, qui m'a dit que c'était officiel.
D'accord.
Les problèmes de papier d'identité de l'époque, on va devoir refaire effectivement tous les tableaux, toutes les publications. Bon, enfin bref, c'est l'anecdote. À l'époque, ce n'était pas forcément très fiable, mais bref, voilà. Mais les os sont justes.
D'accord. Donc, pianiste virtuose, très vite, on l'a dit, on a évoqué sa carrière brillante dès les années 1890, je crois. Absolument. Sa première tournée aux États-Unis, restée à New York, tournée, vous en avez, à travers les États-Unis, vous en avez parlé, Antonin Scherrer. Mais alors, cet engagement patriotique, est-ce qu'il remonte à un moment particulier? Vous rappelez dans le catalogue, qui est très bien fait justement pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire de la Pologne comme moi, il y a plusieurs cartes qui permettent...
Moi non plus à l'époque, hein, je vous rassure.
Il y a plusieurs cartes qui permettent de voir l'évolution du pays qui a été effectivement plusieurs fois sacrifié, découpé, réparti entre la Russie, l'Autriche, l'Allemagne, enfin selon les époques. À quel moment il s'est senti investi d'une mission ou d'un sentiment patriotique particulier, ce Paderewski?
Alors, je pense que l'arrestation de son père en 1863, lors de ce qu'on a appelé l'insurrection de janvier,
qui était absolument terrible,
il avait 3 ans, mais en tout cas, il en a parlé dans des lettres, il a été très très marqué par ça. Une année de goulag en Sibérie, quand même, c'est parce qu'il est né... lui-même dans la partie qui appartenait à l'Autriche-Hongrie, qui est actuellement en Ukraine, figurez-vous,
ouais.
Donc du côté de Lemberg, qui est devenu Lviv en plus, ouais. Du temps de la Pologne. Et après, effectivement, ils ont vécu du côté de Varsovie, qui était la partie occupée par les armées du Tsar, enfin la Russie. Et donc, le père a participé, qui faisait partie de la petite bourgeoisie, mais une bonne bourgeoisie effectivement polonaise, a participé à ça. Et je pense que ça lui est resté au fond de lui. Voyant les gens se révolter ou s'exiler. Lui, il a dû se dire, je pense, assez vite que le piano pouvait être, que la musique, donc au sens large, pouvait être une arme. Mais évidemment, il fallait trouver l'occasion. Ils étaient vraiment... Il a passé toute sa jeunesse. Puis après, effectivement, à travers toutes les tournées, il était très loin de cette Pologne. D'ailleurs, une grande partie de sa vie, il l'a passé très loin de la Pologne. Mais... En 1910, je pense qu'il fallait pas être grand prophète pour sentir qu'une opportunité, c'était je pense même un des seuls à souhaiter, j'imagine, la guerre, parce qu'on se rendait bien compte, après 140 années de partage total de la Pologne entre ces trois puissances que vous avez citées avant, c'était l'unique possibilité de recouvrir un pays indépendant, découpé effectivement entre ces trois puissances, qui devait être vaincu par les alliés, bien sûr, on te l'a dit, qui s'est rendu compte que l'opportunité était à saisir. Il s'était rendu compte aussi du pouvoir énorme de mobilisation de la musique, déjà aux États-Unis avec ses trains phénoménaux, c'est le début du Star System. On parle beaucoup d'Offenbach et de début du Star System cette année, mais le Paderewski l'a connu lui aussi. Il engrangeait des cachets pharaoniques, qui ont même fait croire qu'il y avait une fortune cachée qu'on n'avait pas trouvée à la fin de sa vie. Après, surtout, sa succession a été extrêmement trouble. On a pensé qu'il avait été emmené aux États-Unis de force, qu'on lui avait piqué son argent et autres, alors qu'en fait, il dépensait tout ce qu'il gagnait. Il gagnait énormément, mais il avait une maison énorme, il entretenait beaucoup de gens, et il dépensait beaucoup. D'abord pour son réseau, pour entretenir effectivement ce réseau au sein des princes, d'autres artistes et autres. C'est quelqu'un qui adorait rencontrer le monde et les grands de ce monde. Ouais, et d'ailleurs, il va s'en servir de manière magistrale dans son activité politique. Mais c'était également effectivement quelqu'un qui était capable de parler, de donner des discours, de parler très très bien effectivement de cette Pologne. Et 1910 est vraiment l'année qui change tout, j'ai envie de dire, où il met le piano de côté et il dit je pars en guerre d'une certaine manière avec mon art et mon âme polonaise, avec deux grands événements, les 500 ans de la commémoration de la bataille de Grunwald qui avait vu la Pologne-Lituanie, le royaume de double royaume effectivement de Pologne-Lituanie, battre les fameux chevaliers teutoniques à Grunwald en 1410, et la même année, un petit peu moins connue, mais pour moi encore plus enflammée, encore plus important effectivement au niveau des termes et au niveau de la manière effectivement de parler, les célébrations à la fin de l'année à Lwów du centenaire de Frédéric Chopin, des conférences et autres, et lors de laquelle il prononce un discours absolument magistral sur Chopin, mais à travers Chopin, sur l'âme polonaise. Et ça, c'est vraiment le début de son engagement patriotique.
Et on sait alors quel retentissement a eu ces discours, son action à partir de ces années 1910, Antonin Scherrer?
Alors, on sait que ça fait très peur, notamment au pouvoir russe en place, parce que l'inauguration de ce monument de Grunwald, qu'il avait entièrement financé lui-même, qui est absolument énorme, On voit la foule absolument gigantesque qui vient assister à cette inauguration. Alors, ils l'acceptent parce qu'ils avaient quand même une certaine latitude, mais ils sentent bien ce qu'il y a de manière sous-jacente, effectivement, à travers ce discours et autres. Donc, il est suivi. Mais en même temps, il a cette légitimité. Il est quasiment citoyen suisse, citoyen du monde. On avait effectivement envie de le dire. Et le retentissement, effectivement, est de plus en plus grand. Et on le voit, nous, à travers le musée Paderewski de Morges, dans le fonds d'archives, à travers tous les échanges qu'il a avec tous les musiciens qui résident non loin de chez lui, en Suisse et ailleurs. Il y a des échanges très, très forts. Et il y a une bienveillance qui va d'ailleurs se marquer, se cristalliser dès 1914, même jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir politique suisse, qui va accepter qu'il utilise la Suisse, pourtant neutre, comme bateau amiral du lancement de son fameux comité de Vevey, qu'il lancera avec le prix Nobel de littérature Sienkiewicz, qui finit sa vie à Vevey. Donc Vevey, ville juste à côté de Montreux, effectivement de l'autre côté du lac. Enfin, à l'autre bout du lac, par rapport à Morges, c'est là qu'il lance, d'une certaine manière, les hostilités humanitaires de sa grande quête, avec la création de ce comité de secours en faveur des victimes de la guerre polonaise, qui va l'emmener quelques mois plus tard aux États-Unis à être le représentant de ces gens-là. Mais c'est une chose très différente, donc, qui se passe en 1914. Il le fait avec l'absolution, d'une certaine manière, du pouvoir politique suisse et de toute une série, effectivement, de personnes, ce qui ne sera pas le cas en 1939, lorsqu'il voudra continuer également, après l'écrasement en trois semaines de la Pologne à nouveau, il voudra mener ce combat, parce que simplement, là, il y aura des problèmes de neutralité. La Suisse étant restée fidèle, effectivement, au gouvernement de Vichy après l'écrasement de la France, c'est une situation plus particulière qu'il le verra donc s'exiler aux États-Unis.
nouveau enregistré en 1924. C'était le menuet opus 14, numéro 1 de Paderewski, sous les doigts de Paderewski. Antonin Scherer, vous me disiez hors micro que c'était une œuvre célébrissime en son temps.
Énorme. Elle s'est vendue, paraît-il, la partition. Alors après, on ne sait pas effectivement si c'est la légende qui a un petit peu accentué le trait, mais ouais. À des millions d'exemplaires, la partition, les premiers vinyles, même à l'époque, il l'avait enregistré sur Veltémignon d'abord, ce petit menuet ancien. C'est vraiment l'œuvre phare caractéristique. La firme du gramophone faisait de la publicité avec lui, comme on fait aujourd'hui d'autres maisons de disques, de manière absolument worldwide.
D'accord. Donc nous avions quitté, avant d'entendre ce menuet de Paderewski, nous l'avions quitté dans les années 14-15. Donc là, il va aux États-Unis et que fait-il alors ?
Alors aux États-Unis, pourquoi les États-Unis ? Parce que c'était l'endroit où il allait pouvoir nourrir sa quête de la manière la plus efficace possible. Car depuis justement cette insurrection de janvier qui avait vu son père emprisonné, mais de très nombreux Polonais émigrés, notamment une certaine Marie Curie qui arrive en France, mais la plupart sont partis aux États-Unis, ce qui fait que la population... La diaspora polonaise en Amérique est de plus de 3 millions de personnes. Donc, imaginez effectivement, quand vous recherchez de l'argent en faveur de cette cause, et puis que vous allez rechercher même également des bras et des fusils pour partir se battre aux côtés du corps expéditionnaire américain de Pershing en 1918 sur le front français, les États-Unis sont l'endroit le plus important. Mais pas qu'à ce titre-là. Également, au titre du fait que le pays est neutre, encore à cette époque, enfin, il n'est pas encore entré en guerre, et que Paderewski a noué des liens, comme il l'a fait avec énormément de grands de ce monde, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le président Wilson, le président américain, pour être précis, avec l'un de ses secrétaires d'État, le colonel House, qui va beaucoup pousser Wilson à créer une société des nations, mais va le décevoir après, comme vous le savez, vu que finalement les États-Unis, mais c'est pas la faute à Wilson seulement, ne vont pas participer et vont tuer dans l'œuf cette grande organisation. Mais bref, Paderewski va là-bas et là il y a toute un imaginaire effectivement qui s'est construit autour de ça. On a même dit il y a des tableaux allégoriques qui montrent Paderewski en train de dicter le fameux 13e point du plan de paix de Wilson pour l'Europe et le monde, qui est le point dans lequel on stipule que l'un des buts de la guerre est l'accession de la Pologne à l'indépendance et avec un accès à la mer. Donc un point fondamental. Et ça, je pense qu'effectivement, on le doit en grande partie à Paderewski. Dans la réalité, je me suis rendu compte que la réalité est pas forcément moins belle moins brillante que celle effectivement de ces tableaux allégoriques. Paderewski a été mandaté par le président Wilson pour lui dire, mais pourquoi on devrait rendre à la Pologne cette indépendance et notamment lui donner un accès à la mer à Gdansk. Donc Paderewski, fort déjà de tous ces discours qu'il avait prononcés, toutes ces enquêtes et ses recherches, enfin enquêtes même presque effectivement qu'il avait faites dans les archives, c'est des textes absolument fabuleux sur la place de la Pologne dans cette partie du monde, avec la mosaïque ethnique. Alors évidemment, tout n'est pas forcément recevable, en tout cas... de la part des gens qui devraient être déplacés ou être pris effectivement sous les feux de cette Pologne-là. Mais bref, il y a des textes absolument splendides qui ont été tous, comme ça se faisait à l'époque, ces textes de discours ont été édités et les gens pouvaient les garder, les avoir effectivement avec eux. Et Paderewski a fait une étude magistrale qui a convaincu Wilson de l'intérêt de maintenir ce point-là dans son plan de paix. Il n'y en avait que 14 points.
Zabił cię.
L'orchestre de l'Opéra Nova de Bydgoszcz, dirigé par Maciej Figacz, prononciation polonaise non garantie, c'était la fin de Manru, l'opéra de Paderewski. Antonin Scherer, alors 1919, le 17 janvier très exactement, Paderewski est donc président du conseil.
Absolument, il a été appelé.
C'est ça.
Du bout des lèvres par l'homme fort Pilsudski, le maréchal Pilsudski, qui n'était pas encore maréchal, qui était général à l'époque de la Pologne, il était appelé par les alliés. C'est les alliés qui l'ont imposé parce qu'ils se disaient avec ce va-t-en-guerre du général Pilsudski, ça va être la guerre civile. On a déjà réglé la paix en Europe, pas avoir effectivement encore une guerre civile supplémentaire.
Donc il faut une personnalité au-dessus. Fédératrice. Quoi,
ouais. Exactement. Ouais. Donc évidemment, il n'était pas du tout, il s'était pas du tout attendu à devoir faire ça. Il est parti en catastrophe depuis les États-Unis sur un navire de guerre anglais. Il a débarqué à Gdansk, il y a eu des émeutes, il y a des étudiants polonais qui ont dû l'aider à sortir de son hôtel. Après, effectivement, Varsovie, la prise du pouvoir et une année présidentielle très courte, 10 mois, qui se terminera après par un retour en Suisse. Il continuera son engagement, notamment en représentant la Pologne lors de la première séance de la SDN l'année suivante, en 1920. Mais une année essentielle, je pense, pour la Pologne. Il signe le traité de Versailles. Mais il est surtout effectivement celui qui fait que la Pologne ne sombre pas complètement dans la guerre. Elle va sortir de la guerre, elle est en guerre quasiment avec tous ses alliés sauf l'Allemagne jusqu'en 1923. Mais effectivement, grâce à lui, il réussit à former un gouvernement en quelques jours, le faire reconnaître par toutes les puissances, qui n'aurait jamais été le cas si ça n'avait pas été lui, adoubé notamment par Lord Balfour, le ministre des Affaires étrangères britannique, mais également toutes les connaissances qu'il avait faites avec Clemenceau, Lloyd George... Orlando, effectivement le président italien. Il avait noué tous ses contacts. Après, on voit par exemple dans le Canard enchaîné une magnifique caricature de Paderewski qui endort les quatre grands lors de la conférence de Versailles. Il est là en train de jouer du piano et puis avec Clemenceau et tout le monde. Enfin bref, ça montre bien que ce personnage effectivement était hors norme. Et sans lui, je pense que la Pologne n'aurait pas accédé aussi facilement d'une certaine manière à l'indépendance.
Très bien, merci beaucoup Antonin Scherer.
Merci à vous.
Pour ceux qui veulent mieux connaître le destin et de la Pologne et de Paderewski, je renvoie à cette exposition qui se tient jusqu'à la fin décembre au musée de Morges. Je renvoie également au catalogue Paderewski Président, édité par Favre. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Pierre Monteil, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je recevrai Jérémy Rousseau pour évoquer l'histoire de l'Opéra de Paris. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.